BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Bienvenue dans Tech & Co Business. Bonjour à toutes et tous. On va beaucoup parler intelligence artificielle aujourd'hui. Avec, dans un instant, on va parler intelligence artificielle et cybersécurité avec l'un des patrons de Cisco. On parlera aussi de comment faire de l'IA un allié au quotidien. C'est un livre que vient de sortir Henri Pidot. Vous le connaissez. C'est le grand patron de l'informatique et du numérique au sein de la SNCF. Et puis, on enchaînera justement, on restera avec les DSI, avec cette lettre ouverte par le SIGREF, ce regroupement de patrons informatiques pour, vous savez, cette fusion Broadcom-VMware qui ne plaît pas à tout le monde et il faut alerter les instances politiques. Deuxième partie de l'émission, alors là on a des gros invités encore, le patron de Balderton Capital, le patron de Dust, le patron de Qtie qui viendront nous parler depuis le salon Raise IT. On sera ensemble et puis le patron de Raise Summit évidemment, on va encore beaucoup parler d'intelligence artificielle. Et restez avec nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business.
BFM Business, Tech & Co Business, l'invité.
Voilà, je vous ai promis qu'on allait beaucoup parler intelligence artificielle aujourd'hui et notamment pour la cyber. Alors, IA for Cyber, Cyber for IA, IA for Hackers aussi, on va en parler avec vous. Éric Videl, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes directeur des relations RSSI IME chez Cisco. Alors, première question, on voit le volume évidemment de cyberattaques, on n'arrête pas d'en parler, ça augmente. On voit voilà, des menaces toujours plus pressantes. Et puis, on a l'impression, et on va le voir avec l'index que vous présentez, hein, l'index de cyber résilience, enfin, on va en parler tout de suite, que les entreprises, on se demande parfois si elles ne sont pas un peu trop confiantes. Elles font confiance à leurs infras et puis voilà.
Alors, tout à fait. Donc, merci pour la question. Donc, en fait, on a publié récemment le Cyber Readiness Index. Donc, on a sondé des dirigeants dans le monde globalement. 8000 dirigeants d'entreprise, des experts de la cybersécurité, des RSSI, plus de 40 en France, dans 30 pays, on a conduit cette étude. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on voit que 52% des entreprises se sentent confiantes dans les moyens de protection, de détection qu'ils ont dans le système d'information. Oui. Mais il y a un paradoxe que 52% également se disent, mais
ça suffit pas.
J'ai besoin de plus parce qu'il y a, comme vous l'avez dit, en fait, la surface d'attaque a considérablement grandi. Mm-hmm. Et donc, comment on est c'est un peu la course contre la montre. Hein. Mm-hmm. C'est toujours aller chercher l'outil de détection au meilleur moment.
Et comment vous analysez ça justement, ce paradoxe entre disant, j'ai mes infras, j'ai mes outils, ils sont bien en place, et puis en même temps. Je sens que je suis une cible tous les jours, quoi.
En fait, il y a plusieurs réponses à cette question. Le premier, c'est que avoir injecté de nouveaux systèmes de protection, de détection dans les systèmes d'information des grandes entreprises, c'est pas simple. Donc, il y a tout un processus en fait qu'on doit suivre, une analyse de risque précise. Ouais. Quels sont les trous dans la raquette qu'on peut avoir dans nos systèmes d'information. Donc, c'est pas instantané. Donc, les gens se sentent préparés à aller dans cette direction, mais entre le moment où on se prépare et le moment où effectivement on met en place ces outils-là, ça prend un petit peu de temps.
Et le moment où tout cela arrive. Alors je regardais aussi dans cet index et je me demandais parfois si on n'était pas un peu trop laxiste avec les télétravailleurs, parce que je vois les chiffres de cet index Cyber Readiness. 80% se connectent à des plateformes non sécurisées. 80% des télétravailleurs donc interrogés disent voilà, moi je me connecte à l'entreprise, mais beaucoup à des plateformes non sécurisées hors de mon organisation. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, et on l'a vu depuis évidemment le Covid et ces nouvelles formes de travail, eh bien, on est, qu'on soit en dehors ou qu'on soit au sein de l'entreprise et encore plus en dehors, on est des cibles, on présente tout un tas de failles.
Alors tout à fait. Alors c'est vraiment, en fait, on a perdu la visibilité de qui fait quoi, à partir d'où, à partir de quel équipement dans les organisations. Et c'est vrai que la pandémie n'a fait qu'accélérer ça. Donc c'est une. C'est un challenge énorme pour les équipes des RSSI parce que ils ont perdu cette visibilité. Donc pour revenir à la question précédente, oui. Donc ils vont vouloir justement implémenter de nouveaux systèmes de détection, de protection pour récupérer cette visibilité. Et deuxièmement, ils vont devoir éduquer les collaborateurs, les choses à ne pas faire. Donc on parle plutôt de d'acculturation sur les risques cyber.
Et justement, est-ce que l'IA, parce que alors les pirates, c'est bon, ils savent utiliser l'IA, trouver des nouvelles formes d'attaque, et notamment avec l'IA générative. Et est-ce que l'IA, justement, on en parle depuis des années dans la cyber en disant que l'IA va aider à détecter, l'IA va aider à repérer ses signaux faibles et tout ça. Est-ce qu'on y est là aujourd'hui?
Alors, déjà, on y est, clairement, mais ça fait un moment qu'on y est.
Oui.
Donc, nous, chez Cisco, ça fait plusieurs décennies, en fait, qu'on utilise des systèmes d'intelligence artificielle, de machine learning, pour aller détecter des campagnes de phishing, des campagnes de spam, aller détecter les noms de domaines malicieux sur l'Internet, etc. Donc, ça, c'est pas nouveau. Donc, oui, il y a eu l'avènement de l'IA générative. Oui, ouais. Et donc, il y a des promesses considérables qui sont déjà implémentées chez Cisco, hein, notamment dans nos pare-feux et dans nos système de réponse aux incidents. En fait, ça va fournir une intelligence augmentée, tout simplement, pour pouvoir assister, alors, soit la personne qui va configurer ses pare-feux, ou la personne qui va être dans le poste de pilotage de la gestion des incidents. Bien voilà, ben, aujourd'hui, moi, en système IA, j'ai vu que Eric, il a téléchargé ce matin de son poste de travail à la maison quelque chose qui est malicieux. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que je recommande de faire. Donc on apporte une aide à la décision aux analystes cyber.
Vous pensez vraiment qu'avec cette IA on entre dans une nouvelle ère de la cyber, que ce soit en cyberdéfense ou en cyberattaque?
Ah oui, clairement, pour moi c'est presque la cinquième révolution industrielle,
concrètement.
Et un autre un point que j'aimerais mettre en avant, c'est on a aussi un autre document qu'on a publié qui s'appelle le AI Readiness Index, qui lui dit 62% des entreprises considèrent qu'elles ont un an pour mettre en place une stratégie et exécuter une stratégie de IA, sinon elles vont perdre des parts de marché, sinon elles vont perdre du business. Donc on y est vraiment, et je le vois au quotidien au travers de l'interaction avec mes clients, c'est complètement chamboulé, c'est complètement
accident. Et est-ce que ça veut dire que vous-même, alors on sait qu'il y a un manque de compétences dans le domaine ingénierie d'une façon générale, IT, tech, etc., mais aussi dans le domaine cyber, est-ce que pour vous, l'IA va permettre d'accélérer un peu je ne parle pas de l'acculturation des collaborateurs de façon générale, je parle vraiment dans l'univers des RSSI que vous connaissez bien. Est-ce que cette IA va leur permettre parfois, pas de pallier au manque de compétences, mais sur certaines tâches, de dire bah, tiens, ça je vais l'automatiser, ça va être...
De toute manière, Cisco, on a la volonté, en utilisant ces plateformes d'intelligence artificielle, générative ou pas, c'est vraiment de simplifier et d'accélérer la détection, l'analyse de la menace informatique. S'il y a vraiment un point sur lequel nous sommes vraiment engagés, simplification, accélération de la réponse. Pourquoi ? Parce que tout le temps qu'on peut gagner dans la détection, dans la rémédiation, dans l'éradication d'une attaque, c'est l'argent qui est gagné. Donc oui, les RSSI utilisent ces technologies-là. Oui, les RSSI vont continuer à utiliser ces technologies-là pour être plus performants, pour être plus rapides et agiles dans la réponse d'incident.
Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça, comment l'IA refaçonne le paysage des cyberattaques. Et donc, ces deux index, l'index de cyber readiness et puis le
AI readiness.
AI Resines, voilà, je vous conseille d'aller sur le site de Cisco, voilà, pour voir un peu toutes ces études qui vous apporteront certainement quelques idées pour mettre en place vos solutions face à cette IA qui investit de plus en plus le monde de la cyber. Merci,
Eric Zinès
de Cisco, d'avoir été avec nous.
Merci.
Allez, on marque une courte pause et on se retrouve. Tiens, on va continuer à parler de l'IA. Faites de l'IA votre allié au quotidien. C'est le thème de ce livre avec Henri Pidot. C'est tout de suite.
BFM Business, Tech & Co Business, la chronique expert.
Notre expert aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle, c'est avec Henri Pidot. Bonjour Henri.
Bonjour Frédéric.
Alors, à la Ville, c'est le DSI du groupe SNCF, et puis à la Seine, où voilà, il est aussi auteur, écrivain. On vous avait reçu la dernière fois pour un ouvrage sur la cybersécurité, un Zero Trust Network. Et puis là, c'est un nouvel ouvrage que je vous conseille. Alors, ça s'appelle « Faites de l'IA votre allié au quotidien ». C'est sur Amazon qu'on le trouve. « Ne soyez pas un simple spectateur pardon, résigné ». Alors voilà, le livre... assez facile à lire, mais qui nous donne plein de petites de chemins justement j'allais dire de chemins, non, de grands chemins. Il y a les concepts découvertes, il y a les services rendus, les risques, et puis passer à la pratique, c'est un peu ça. Alors, la préface, je le précise quand même, écrite par Nicolas Vaiatis, qui est chercheur en machine learning, prof à l'ENS, d'où vous êtes issu aussi également. Déjà, est-ce qu'il y a des pages écrites par l'IA dans cet ouvrage?
Alors, l'IA, c'est la première fois que je me fais aider. En fait, mon éditeur, en fin de compte, a utilisé l'IA pour me proposer des parties du livre. Bien sûr que j'ai complètement corrigé.
Oui.
Mais c'était intéressant de travailler avec l'IA pour écrire un livre. C'est la première fois que je le fais. Et finalement, ça fait gagner du temps. Mais surtout, ça élimine le stress de la page blanche.
Oui. On s'est dit,
ça, c'est intéressant.
J'ai 4-5 idées, et puis voilà,
on a peut-être 4 idées, puis après, on a du volume, et après, on le travaille.
Alors, il y avait une expression que j'aimais bien, c'est un livre qui s'adresse à ceux qui ne veulent pas le rester du mauvais côté de l'histoire. C'est ça l'idée.
C'est ça.
C'est vraiment pas un livre pour les codeurs peuvent le lire, si vous voulez, mais on n'a pas des cours de code et tout ça à l'intérieur. C'est vraiment cette acculturation.
C'est ça. Ça se veut être grand public, d'abord. Et ensuite, avoir aussi des éléments pour les entreprises, pour voir comment est-ce que finalement on utilise l'IA dans l'entreprise. Et pour le grand public, ça permet, enfin, l'enjeu, c'est de les faire passer à l'acte.
Oui.
Essayer.
Oui, oui.
Et ça, c'est un enjeu majeur, sachant que pour moi, c'est une vraie révolution, une vraie révolution qui est aussi importante que l'Internet. Et je pense qu'il ne faut pas prendre l'IA, plutôt il faut prendre l'IA au sérieux, ce n'est pas un effet de mode.
Oui, c'est pas un effet de mode, et alors je vais dire aussi, c'est pas un effet de mode technologique, parce que justement, et vous le connaissez bien évidemment dans votre métier côté SNCF, vous avez évidemment des ingénieurs, tout ça, mais il y a aussi des gens qui sont à l'accueil dans les gares, qui sont sur les rails en train de réparer tout ça, qui ne sont pas forcément au contact de ce numérique au quotidien, si ce n'est peut-être avec leur smartphone. Et souvent, les bons cas d'usage, ils viennent d'eux. Et justement, je pense que ce livre, c'est un peu de dire, tiens, vous-même qui n'êtes pas tous les jours sur un écran, un clavier, tout ça, c'est à vous d'avoir, peut-être en lisant ça, d'avoir quelques idées.
C'est ça, il faut le tester, voir ce que l'on peut en faire, trouver des cas d'usage. Et comme c'est une technologie qui est récente, moi j'aime bien dire aussi que cette technologie, c'est le confluence de trois grandes révolutions. La première, c'est l'accès à la compétence, à l'accès à l'information en termes de documentation et de savoir. Historiquement, on a eu à l'époque du Moyen-Âge, c'était des personnes dans les c'est ceux qui avaient
le savoir
qui le maîtrisaient. Ensuite, il y a eu du Gutenberg qui a permis d'avoir toute
la Bible
pour tout le monde, et ensuite d'avoir ses propres livres à la maison. Ensuite, l'Internet, on a accès à l'ensemble de la documentation mondiale, et là on a accès quelque part au bibliothécaire qui a lu toute la documentation mondiale.
Oui, c'est ça.
Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable.
Et alors, je trouvais qu'il y avait intéressant dans la partie 2, c'est se concentrer aussi sur la collaboration homme-machine, parce que c'est vraiment ça. On est, on l'a dit tout à l'heure avec Eric Videl de Cisco, juste avant, on parlait d'IA et de cyber, on n'arrête pas de le dire, on est dans l'assistant, dans l'assistana.
Là encore, il y a une révolution, c'est qu'on a beaucoup travaillé avec le téléphone, avec les boutons, après le Minitel, après l'Internet, le PC avec un écran, une tablette, une souris. On a le smartphone qui a changé aussi la manière de consommer la machine. Et là, on rentre dans l'IA générative où on est dans le dialogue.
Oui.
Alors là, pour le coup, c'est le dialogue avec la voix. Et c'est une nouvelle interface qui est en train de se créer. Et on peut imaginer toutes les évolutions qu'il peut y avoir en termes de produits et de relations avec la machine.
Ouais,
c'est vraiment important. Et on peut l'imaginer. De mon point de vue, ça va réduire la fracture numérique, puisque ça va être encore plus accessible.
En plus, je trouve que ce qui est intéressant dans ce livre aussi, c'est quelque chose je dis en lisant entre les lignes, mais même en le lisant tout simplement, c'est qu'on voit qu'à la fois ça va rendre des services pour automatiser des choses, mais ça va nous permettre aussi de faire des choses qu'on ne sait pas faire ou qu'on sait moins bien faire. Enfin, il faut vraiment le voir dans ces deux axes.
C'est vrai. En fait, quand on parle souvent de l'IA qui est imaginative, ou plutôt qui hallucine.
Oui.
Et quelque part, l'imagination, c'est l'hallucination aussi. Et le fait de pouvoir avoir des solutions qui n'ont pas été imaginées précédemment par l'humain, c'est aussi une façon d'ouvrir un champ des possibles qui n'était pas accessible auparavant. On a on l'a commencé. Enfin, il n'y a pas que cette IA générative qui le fait. Hein. Par exemple, le jeu de Go, où il y a une IA qui a travaillé sur le sujet, a sorti des stratégies qui n'avaient jamais été imaginées par l'humain depuis 5000 ans.
Ouais. Non, c'est ça qui
donc, ça veut dire que ça ouvre le champ des possibles et ça va être...
Et puis, dernière chose, dans ce livre, Henri Pidot, il y a une partie pratique. Hein, on explique un peu, tiens, par étapes, si vous voulez y aller. Alors, encore une fois, on ne vous donne pas les lignes de code et tout ça. Hein, le Python, allez la prendre de votre côté ou comment apprendre à prompter. Mais voilà, on vous donne quelques pistes pour dire il faut une hygiène de la data, il faut avoir en tête toutes ces histoires d'éthique, de confidentialité autour de la data. Et puis derrière, ben, lancez-vous.
C'est ça. Et en fin de compte, on a deux, trois pistes pour savoir ce qu'on appelle prompter. Ça n'a rien d'autre que savoir questionner l'IA. Et si on a compris comment elle fonctionne, on est capable de mieux avoir des meilleures réponses à nos questions.
Mm-hmm. Et d'ailleurs, il y a une chose qui est dite assez intéressante, c'est que souvent on se dit, tiens, si j'entame le dialogue avec l'IA, on va y arriver. Et en fait, non. Poursuit tout un dialogue, il vaut mieux reprendre un peu toute la synthèse des échanges et le refaire
parce
un prompt. C'est ça.
Ouais, parce que
ça, c'est un truc tout bête, mais j'avais pas fait attention à ça.
L'IA est à Alzheimer. Mm-hmm. Au fur et à mesure qu'on lui pose des questions, elle oublie la question initiale. Donc, elle oublie ce qu'elle avait en tête au départ. Et comme on doit lui donner un contexte pour qu'elle puisse correctement répondre, il faut régulièrement lui redonner un contexte. Bon, ça, c'était il y a quelques mois. Maintenant, toutes ces IA-là évoluent tellement que je pense que ces biais d'aujourd'hui vont disparaître demain.
Bon, eh bien, merci Henri Pidot d'être venu nous parler de ce livre. Faites de l'IA votre allié au quotidien. Franchement, on se connaît bien, je n'hésite pas à en faire la publicité, mais je dis aux gens qui se posent des questions, allez-y, lancez-vous sur Amazon, ça va valoir 12-15 euros. Et vraiment, ça se lit assez vite et ça vous donne beaucoup d'aperçus autour de tout ça. Et ça vous fait réfléchir, ça vous ouvre des pistes un peu partout. Donc, merci Henri d'être venu nous parler de ce livre. Et puis, pour ceux qui allaient à la cyber, il y avait aussi l'autre, sur la Zero Trust Network, là, qui était un peu plus ardu, livre intéressant. Merci Henri Pidot et nous on se retrouve tout de suite avec quelqu'un que vous connaissez bien, Henri Dagrin, car les DSI ont beaucoup de choses à dire à Broadcom, à la Commission européenne sur ce rachat Broadcom-VMware. On en parle tout de suite.
BFM Business, Tech & Co Business, l'invité.
Le rachat de VMware par Broadcom n'a pas fait plaisir à tout le monde, notamment, alors certains parlent d'un massacre commercial, mais justement, le CIGREF, ce sont les 150 entreprises qui travaillent autour d'une, cette association qui regroupe ces 150 entreprises, par la voix de son délégué général, Henri Dagrin, vous avez écrit une lettre ouverte pour contrecarrer un peu cette fusion VMware-Broadcom. Expliquez-nous, alors, il y a le CIGREF, mais vous êtes allié aux mêmes associations aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, voilà, c'est vraiment quelque chose, et vous voulez remonter ça au niveau européen.
Absolument. En fait, on ne veut pas faire capoter particulièrement cette acquisition. Ce que l'on souhaite, c'est que Broadcom, dans le cadre de ses relations avec ses clients, les clients de VMware, se comporte conformément à certaines valeurs éthiques qui, sur le marché européen, doivent prévaloir. C'est pour ça que nous appelons la Commission européenne, et on a écrit directement à Madame von der Leyen, la présidente de la Commission, pour lui dire, aujourd'hui, ce sujet, c'est pas spécifiquement un sujet qui doit être laissé uniquement aux techniciens du droit de la concurrence. Mmh. Ça les dépasse. C'est aujourd'hui un sujet politique. Politique pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord parce que les augmentations de coûts sans précédent de Broadcom sur les produits VMware, par la bundelisation, par l'augmentation directe des coûts, par la sortie des licences perpétuelles en mode souscription, eh bien, entraîne une ponction illégitime et stérile sur l'économie européenne que nous avons évaluée à entre 12 et 15 milliards par an.
Oui.
Par an. C'est la première chose, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que nous voulons que les politiques, que ce soit en France, mais que ce soit également à l'échelle européenne, disent « ce n'est pas comme ça qu'on se comporte vis-à-vis de ses clients, il y a des règles à respecter », et que ça soit un signal extrêmement clair qui soit envoyé par l'Europe à l'ensemble de l'économie numérique pour dire « on ne se comporte pas ». Comme ça, oui, vis-à-vis de ses clients.
Que ça ne donne pas d'autres idées, parce qu'il faut rappeler quand même que ces plateformes comme VMware, on ne les installe pas pour un an et puis on verra si on les. Non, on part pour des contrats de 4, 3, 4, 5 ans, donc on est vraiment lié avec eux, donc on est très attentif au futur. Le but, c'est quoi ? C'est que la Commission européenne vraiment se penche ça et se retourne vers Broadcom en disant écoutez écouter ce que disent un peu nos entreprises. Hein. Encore une fois, vous le dites très bien, c'est pas qu'un sujet technique, c'est pas qu'un sujet de concurrence, c'est la vie des entreprises. Hein.
C'est la vie des entreprises et c'est ce que l'on ne peut attendre. Après, il appartient à la Commission européenne de décider quelle sera son action. Mm-hmm. Mais ce que l'on sait, c'est que la Commission européenne a bien reçu notre courrier, qu'elle a commencé des diligences, notamment auprès de Broadcom, et qu'elle plusieurs leviers qui sont à sa disposition. J'en prendrai plusieurs. Bon, mais d'abord, il y a le droit de la concurrence, et la DG Compétition peut très bien se saisir de ce sujet, mais avec une vision politique, mm-hmm. et pas exclusivement de technicien du droit de la concurrence. Il y a un deuxième outil. Nous avons le Digital Market Act, qui prévoit parmi les digital services, les cloud services. Mm-hmm. Pourquoi est-ce qu'on n'appliquerait pas à un acteur aussi systémique que VMware by Broadcom les obligations qui sont faites aux gatekeepers sur les services cloud? C'est une deuxième possibilité. Et puis, il y en a d'autres. Il y a finalement des règles qui concernent directement ce qu'on appelle les abus de dépendance technologique, et notamment en droit français, mais qui sont aujourd'hui, qu'il est possible d'activer. Bref, nous en appelons à l'ensemble des autorités, que ce soit les autorités politiques au niveau national ou aux autorités politiques au niveau européen, de venir compléter ce que, par ailleurs, les entreprises vont faire d'elles-mêmes. Elles n'ont pas attendu pour négocier, pour éventuellement se porter partie civile dans des contentieux ou pour en appeler au droit de la concurrence. Bref, une palette d'outils qui sont à la disposition de l'Europe et des entreprises pour ne pas se laisser faire avec une telle brutalité et un tel mépris comme nous n'en avons rarement vu dans la technologie.
En plus, avec un VMware qui a 80% du marché, enfin voilà, qui a une position dominante très importante. Merci Henri Dagrin d'être venu parler de tout ça, délégué général du CIGREF. Hein, donc cette lettre ouverte du CIGREF à la Commission européenne pour alerter sur cette fusion VMware-Broadcom qui n'est pas qu'une fusion technologique, il y a un vrai enjeu pour nos entreprises. Hein, vous avez dit entre 12 et 15 milliards dans le coût. Merci de d'être venu nous en parler ici. Allez, on part tout de suite au salon Raise AI. C'est à Paris, vous allez voir, on a beaucoup d'invités prestigieux, des startups, des fonds d'investissement. L'IA, c'est vraiment le sujet du moment.
BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Voilà, je vous l'ai dit, nous sommes donné rendez-vous à l'événement Raise Summit à Paris, l'hostel Westin. Et nous sommes avec Adrien Decournon, bonjour.
Bonjour
Adrien,
Frédéric.
Qui est cofondateur de Raise Summit. Alors, dites-nous, il y a 1500 décisionnaires IA ici, on voit tout l'écosystème de l'IA générative. Le but de cet événement, hein, c'est bâtir aujourd'hui l'entreprise de demain. C'est quoi? C'est mettre en contact un peu tout cet écosystème avec les grandes entreprises?
Oui, tout à fait. Le Raise Summit, c'est une conférence internationale de plus de 1500 personnes sur l'IA générative et ses applications en entreprise. Donc l'objectif de Raise, c'est de mettre en relation les créateurs d'IA, qu'ils soient français, internationaux ou européens, et le monde corporate qui commence à appréhender aujourd'hui cette révolution. On est passé en 2023 d'une année de découverte et d'appréhension de la technologie de l'IA générative à sa mise en application cette année. Donc on essaye de faire cohabiter tout cet écosystème-là.
Alors, il y a quelques grands moments, je crois, enfin des moments importants. On sait que Mistral, hein, l'une de nos vedettes, nos pépites ici, mais il y en a d'autres, hein, il y a des Dust, des Lighton, etc. Mais Mistral fait un hackathon, hein, c'est ça? Là, c'est un moment pas manqué. Hein.
Exactement. Mistral organise un hackathon sur toute la journée avec plus de 100 développeurs et deux tracks qui sont définis avec nos partenaires Roche et Dassault. Donc, des tracks qui sont focus sur des industries spécifiques. Donc, on a un hackathon qui se déroule toute la journée sur la technologie de Mistral, tout à fait.
L'objectif de ce salon aussi, c'est trouver, imaginer ce que j'appelle les next gen application, quoi, la future génération de nos applications à partir de cette IA générative. Et donc ici, on n'est pas encore par secteur d'activité, mais voilà, il faut aller fouiner un peu pour savoir si on est dans le transport, dans l'industrie pharmaceutique, ça, pour trouver son bon partenaire IA.
Exactement, on a la chance d'avoir beaucoup d'acteurs du hardware aussi aujourd'hui, comme Jonathan Ross de Grok, qui fournit des puces concurrentes de Nvidia et qui travaille avec beaucoup d'industries différentes. Et l'objectif de Raise, c'est d'être agnostique en termes d'industrie et en termes de technologie. Donc on est très ouvert sur les industries qui sont évoquées aujourd'hui pendant nos panels et nos interventions.
Comment vous sentez les alors, pas l'écosystème, pas le monde amont, mais le monde des entreprises, là, ils sont, comme vous l'avez dit, on a passé un peu la phase de questionnement, on est dans la phase d'action, mais qu'est-ce qui fait que les entreprises vont franchir une étape pour vous, enfin, Qu'est-ce qui leur manque pour franchir cette étape, pour aller plus vite justement vers le développement d'IA générative?
Je dirais que ce qui manque aujourd'hui, c'est peut-être une direction dans chaque entreprise, de trouver les cas d'application et les cas d'usage les plus pertinents à mettre en place dans l'entreprise, les évaluer et les mettre en application en prenant en compte le risque sécuritaire qu'implique la mise en place de logiciels d'IA générative, le coût que ça coûte et la mise en production, l'efficacité de la mise en production de telles solutions. Donc c'est ça aujourd'hui le grand sujet.
Le but c'est ça, ce serait si vous aviez quelques conseils à donner en ayant rencontré toutes ces entreprises, toutes ces start-up de l'IA générative, le conseil des entreprises c'est ça, c'est de faire attention aux coûts, d'avoir les bons cas d'usage, d'avoir les compétences, d'avoir les data, c'est un peu ça?
Ouais, c'est exactement ça, de prendre en compte toutes ces problématiques et de pouvoir comptabiliser tous les cas d'usage qui sont possibles à mettre en place au sein d'une entreprise. On a également beaucoup d'acteurs, des conseils en stratégie, du numérique qui sont là aujourd'hui et qui sont vraiment des moteurs et des relais de l'implémentation de l'IA générative dans les entreprises. Et on voit aujourd'hui des cas d'usage qui sont relativement classiques comme le support client, comme le traitement de la donnée, la création de nouvelles images qui ne passent pas forcément par des métiers du design qu'on connaissait auparavant. Et ce sont des premiers cas d'usage qui sont assez faciles à mettre en place et que les entreprises sont en train de mettre en place aujourd'hui. Et on avancera petit à petit vers plus de technologies au sein des entreprises dans le futur.
Eh bien, merci Adrien Cournon. Et puis, si vous avez manqué l'événement cette année, il est déjà prévu, hein. C'est déjà parti pour 2025.
Il est déjà prévu pour 2025, le 8 et le 9 juillet 2025, au Carrousel du Louvre. Donc,
cochez déjà ça sur votre agenda, 8-9 juillet 2025, Carrousel du Louvre. Merci,
merci
Adrien
beaucoup.
De Cournon.
Merci,
et nous, on va rester ici. Vous allez voir, on a beaucoup d'invités qui vont venir, des investisseurs, des startups, Dust d'ailleurs qui sera là, mais aussi Bernard Liotto, le patron, l'ex-patron de Business Object, mais ça fait des années, et aujourd'hui, il dirige Balderton Capital. C'est tout de suite.
BFM Business, Tech & Co Business, l'invité.
Voilà, nous poursuivons notre épopée dans l'IA générative ici à l'événement RISE Summit à Paris. Et je suis avec Bernard Liotto. Bonjour.
Bonjour.
Bernard, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Balderton Capital. Alors, les plus anciens dans l'informatique, comme moi, vous ont connu à une autre vie. Vous aviez fondé Business Object, que vous aviez revendu il y a plusieurs années déjà, hein, parce que ce fonds Balderton, vous l'avez fondé en 2000. Aujourd'hui, 4,5 milliards de dollars levés en 10 fonds. Vous avez accompagné plus de 250 entreprises, 115 sont encore en portefeuille. Il y a deux derniers fonds, tiens, d'ailleurs on va s'y intéresser. Un en early stage de 600 millions et puis un autre en growth d'environ 700 millions.
Voilà.
Vous êtes 70 personnes. Alors justement, par rapport à ces fonds sur lesquels vous êtes en train de travailler, quels sont les projets qui vous ont le plus marqué au cours de ces 18 derniers mois là où on a vu cet essor de l'IA générative?
Oui, alors bon, l'IA, c'est quelque chose que l'on fait depuis maintenant très longtemps, puisqu'on a commencé en 2016 avec des sociétés comme Wave, comme Helix, comme Sophia Genetics, etc. Et puis aujourd'hui, effectivement, il y a cette nouvelle essor de l'IA générative. On a fait par exemple un très beau projet en France qui s'appelle Photoroom.
Ah oui, Photoroom, oui.
Donc qui a une croissance extraordinaire. On a fait la première série et la deuxième série, donc avec le fonds d'early stage en premier et ensuite on s'est relayé par le fonds de croissance. Et ça, c'est une société qui fait donc de l'édition de photographies avec de l'IA générative qui a carrément explosé l'année dernière.
C'est une de nos belles pépites aujourd'hui dans l'IA générative. Alors justement, sur ce secteur de l'IA générative, en quoi pour vous c'est une révolution importante? Vous avez connu pas mal de transformations numériques, informatiques, voilà, au cours de toutes ces années. Là, on assiste quand même à quelque chose de nouveau, hein.
Oui, c'est tout à fait extraordinaire parce que ça a une capacité à transformer l'économie et à automatiser pratiquement 30 à 40% des tâches qui sont faites aujourd'hui dans les entreprises. McKinsey, d'ailleurs, dit que ça va avoir un impact d'à peu près 4 000 milliards de dollars sur l'économie. Et donc, on voit ça dans le support client, dans le vente marketing, dans la recherche et développement, dans le produit,
oui, tout ce qu'on peut voir ici, effectivement.
Dans le software engineering, partout, effectivement. Mm-hmm. Donc, tout est transformé, tout doit être repensé. Pratiquement tout le monde qui travaille dans les entreprises aujourd'hui doit réimaginer la manière dont ils vont travailler.
Et à votre niveau, en tant que venture capitaliste, qu'est-ce qui change? On voit qu'il y a toujours besoin. Il y a besoin d'encore plus d'argent. Alors, j'avais lu, je crois que c'est sur votre site, j'avais lu un article en disant « il nous faut un plus gros bateau ».
Oui, alors, en règle générale, je pense pour l'industrie du venture, les montants nécessaires, notamment pour la partie fondation de l'IA, demandent beaucoup d'argent. Mmh. On le voit avec OpenAI, Anthropic, etc. Cela étant dit, une fois que cette base de fondation est établie, sur la partie applicative, on retrouve en fait les mêmes types de dynamiques de business que l'on trouve et qu'on va trouver auparavant, et même dans certains cas de manière accélérée. Si vous prenez Photoroom aujourd'hui, une société qui aujourd'hui fait des dizaines et dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires, qui est profitable alors qu'elle a quelques années d'âge et avec moins de 60 personnes aujourd'hui. Mm-hmm. Donc des facteurs économiques qui sont bien meilleurs que ce qu'on a trouvé auparavant.
Et quel rôle doivent jouer est-ce qu'il y a un rôle supplémentaire que doivent jouer justement les VC aujourd'hui en Europe, en France plus particulièrement?
Aujourd'hui, on doit effectivement être vraiment leader sur l'accompagnement de ces technologies. Je dirais qu'il y a une compétence technologique à avoir qui est vraiment importante. On tombe maintenant sur des systèmes qui sont très complexe, dans lequel il faut arriver justement à apporter de la valeur, non seulement compréhension de ce qui se fait dans la technologie, mais également toujours, c'est comment est-ce qu'on peut aider une société française ou européenne à se développer de manière globale. Les marchés tout de suite global, on ne peut pas simplement se développer en IA sur la France, sur l'Europe. Il faut aller gagner aux États-Unis contre les meilleurs qui sont sur place.
On voit aujourd'hui en France, alors il y a beaucoup on continue à avoir beaucoup d'opérations, mais on voit des levées de fonds moins importantes. Alors certes, on a l'impression que ça reprend un peu. On voit aussi des entrées en bourse qui sont moins nombreuses. Comment vous expliquez un peu ce phénomène aujourd'hui en Europe, hein?
Oui, tout à fait. Alors, ce phénomène européen, il suit aussi le phénomène américain. Oui. Mais en fait, la technologie, elle est faite un peu de surchauffe par moment. Oui. Il y a une surchauffe qui a démarré il y a 2-3 ans autour de la technologie et de l'IA, mais aussi de par l'arrivée d'acteurs financiers qui ne connaissent pas forcément toutes les composantes du VC et qui sont rentrés à très grande dynamique dans le métier en mettant des valorisations très élevées. Donc les valorisations sont parties au firmament et après il y a eu en fait un retour ou alors
il a fallu digérer.
Voilà, il faut digérer tout ça. Les entrepreneurs voulaient continuer à obtenir ce type de valorisation. Les investisseurs se disent ben non, en fait on peut pas continuer cette voie-là, et donc il y a eu un disconnect. Donc ça a ralenti les choses. Et de ce fait-là aussi, les introductions en bourse mettent plus longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut être beaucoup plus gros. C'est-à-dire qu'il faut faire au moins 300 millions de dollars de chiffre d'affaires pour rentrer en bourse. Il y a quelques années, on rentrait à 100 millions.
Oui.
Et encore avant, Business Object, nous, on était rentrés à 30 millions de chiffre d'affaires. On n'est plus dans le même système.
Les époques ont changé, les échelles ont changé aussi. Et justement, vous parlez des millions. Aujourd'hui, dans l'IA générative, on parle en milliards. Est-ce qu'on a les moyens de lutter? Vous êtes basé à Londres, je l'ai dit, vous êtes en 65-70 personnes chez Balderton Capital. Oui. Quand vous regardez un peu le marché mondial, vous dites... Non, oui, l'Europe, on a une carte à jouer. Ce qui se voit aujourd'hui avec le dynamisme ici de cet événement Rise Summit, mais voilà, quel est votre regard?
Oui, moi je suis persuadé qu'on a ce qu'il faut en Europe. Aujourd'hui, Balderton, on a deux fonds qui font un total d'à peu près 1,3 milliard. Donc on a de quoi suivre une entreprise de la période seed jusqu'à l'IPO. Alors néanmoins, après, dans l'IA, il faut distinguer ce qu'on fait au niveau des modèles fondation. Et là, pour le coup, il faut des milliards de dollars et il faut que les entreprises s'adossent généralement à un Microsoft, à un Google ou à un Amazon. Et puis, il y a toute la partie applicative. Et c'est là où, en fait, l'essentiel de l'IA va se passer. Et sur la partie applicative, on retrouve les mêmes choses. Donc avec 20, 30, 40 millions, on peut rentrer dans les entreprises et les aider très rapidement à se développer globalement.
Quand vous regardez, vous êtes évidemment dans cet univers du logiciel depuis très longtemps, pensez-vous que l'Europe a les moyens justement de revenir sur certains points au niveau des Américains en termes de logiciels?
Absolument, et parce qu'au départ, ça commence par les talents. Et en fait, si vous regardez les talents français et européens, on a des gens exceptionnels qui dirigeaient dans le passé les grands programmes de recherche chez Meta, chez Google et autres. Ces gens-là, aujourd'hui, reviennent, comme par exemple les fondateurs de Mistral, qui étaient chez DeepMind ou chez Meta, qui créent en fait les modèles de demain à Paris. Et donc, en fait, on a cette compétence-là. Avec le talent, l'expérience de l'avoir fait déjà dans des grands groupes américains, on va pouvoir effectivement démarrer des entreprises extraordinaires. Et aujourd'hui, on en a une dizaine en France qui sont au top de ce qu'il faut faire de manière globale.
Vous pensez qu'il y a encore des choses à améliorer dans les conditions dans lesquelles, justement, on crée des conditions plus propices à l'amélioration des investissements, de la croissance aujourd'hui en Europe?
Moi, je crois qu'on a pratiquement tout aujourd'hui. Ouais. On a le financement, on a les incubateurs, on a les chercheurs, on a la technologie. Peut-être ce qui nous manque encore aujourd'hui, c'est D'abord, un cloud européen, ça oui. c'est très important. Ça c'est plus pour la souveraineté européenne, à la souveraineté nationale. Les entrepreneurs peuvent peuvent continuer à se développer oui. avec un Amazon ou etc. Mais pour la souveraineté, on aurait besoin de ça. Et je dirais, ce qui nous manque encore un peu aujourd'hui, c'est un marché boursier qui est le dynamisme oui. de ce qu'on trouve sur le Nasdaq, sur le NYSE.
Ouais, et là il y a beaucoup de choses à changer dans l'épargne des Français. Enfin, il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci Bernard Liotto, président de Balderton Capital, d'avoir pris un moment avec nous sur cet événement Race Summit. Et puis j'espère qu'on continuera à vous suivre évidemment puisqu'avec ces deux derniers fonds, hein, Early Stage et Growth de 600 millions et presque 800 pour le second. Voilà, j'imagine il y a encore beaucoup de photo room à venir.
Absolument, on est là pour les trouver. Merci.
Merci. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite sur BFM Business.
BFM Business, Tech & Co Business, l'invité.
Voilà, on poursuit à l'événement Race Summit à Paris, donc concentré sur l'IA générative. Et avec nous, Patrick Pérez. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de QTI, trois fondateurs, Iliad, CMA CGM et Schmidt Futures. Derek Schmidt, l'ancien président de Google, aux alentours de 300 millions d'euros de dotation, donc ça n'est pas rien. Vous travaillez beaucoup sur le cluster Scaleway, avec plus de 1000 GPU hein, qui sont NVIDIA, qui sont utilisés, et une équipe initiale de 6 chercheurs de renommée mondiale. Tiens, je vais commencer par cette question-là. Six chercheurs, vous êtes passé par l'INRIA, mais aussi Microsoft, FAIR, DeepMind. Qu'est-ce qu'on apprend de ces parcours quand on est allé chez ces big tech, justement ?
Alors effectivement, c'est un point commun qu'on a tous, les six chercheurs. On est tous passés par des labos de recherche de la big tech. Donc c'était dans des labos de recherche qui faisaient et qui fait encore en partie la recherche ouverte. Et ce qu'on a appris, d'une part, c'est de travailler dans des environnements avec des conditions de travail exceptionnelles, un accès aussi à des groupes de produits, donc des expériences dans le transfert technologique éventuellement à grande échelle, mais également de travailler sur des infrastructures. Alors, c'est particulièrement important pour ceux qui viennent juste d'en sortir de ces labos. Ils ont pu avoir accès dans leurs travaux de recherche à des infrastructures vraiment à grande échelle, et travailler sur ces infrastructures, qui est évidemment nécessaire, on y reviendra sans doute, pour le développement des IA génératives actuelles, c'est une expertise, c'est un métier qui ne s'apprend pas nécessairement à l'école. Mm-hmm.
Alors, dans la définition de QTI, on lit Open Science AI Lab. En quoi ce côté open est important ? On sait que Xavier Niel, lors de la conférence de lancement, avait beaucoup parlé de ce côté open source. Et voilà, et c'est d'ailleurs ce qui vous a aidé, enfin ce qui a rassemblé un peu ces six chercheurs. Vous êtes 8 d'ailleurs aujourd'hui.
On est 8 désormais, en effet, et on continue à grandir doucement. Effectivement, le mot ouvert, quitte à comprendre de différentes façons, était vraiment très important et a été fédérateur pour l'équipe. Donc c'est ouvert au sens effectivement de open software, donc de partager les modèles en particulier, mais c'est ouvert au sens plus large, puisque c'est de la science ouverte. Le but, l'enjeu de ce laboratoire, c'est de faire de la recherche. La recherche scientifique, pour participer à l'avancement de la connaissance, doit être partagée de façon ouverte, reproductible le plus possible. Donc pour nous, l'ouverture et la transparence va bien au-delà de partager les modèles, mais aussi le savoir, les découvertes, les algorithmes qui permettent d'entraîner les modèles, etc. Donc c'est vraiment, effectivement, quelque chose de très très important dans l'ADN du laboratoire.
Et puis j'imagine que c'est aussi un élément du faire venir, hein, puisque je disais, vous avez démarré à 6, vous êtes 8, et puis progressivement vous allez vous grossir, quoi, au sein de l'équipe. Pourquoi est-ce important aujourd'hui d'avoir des algorithmes made in France ?
Alors, je pense que c'est important que la France et l'Europe, d'une manière plus générale, reprennent la place qui lui est due, je pense, dans la course technologique, en particulier de l'IA. Il y a des étudiants, des chercheurs, des ingénieurs vraiment de niveau exceptionnel qui sont formés ici en France et en Europe. Donc c'est important qu'ils contribuent aux avancées en Europe. En revanche, les modèles eux-mêmes, ils ne seront pas spécialement européens ou français. Je veux dire, la technologie, les avancées de l'IA comme discipline scientifique et comme technologie est absolument internationale. Oui. D'ailleurs, ça ne vient pas que de la côte ouest des États-Unis, ça vient aussi de l'autre côté du globe.
Donc c'est plus vraiment... les data, si on va en
Alors, effectivement, entraîner sur... Vous avez raison, j'allais y venir. Un autre élément important dans les grands modèles de dix fondations ou d'IA générative, c'est les données de pré-entraînement et puis de... enfin d'entraînement de manière générale. Ces données pour sont en grande partie récupérées sur Internet et donc sont en grande partie d'abord anglophones. Et il sera important, il est important dès à présent d'avoir des mix de données d'entraînement qui sont plus équilibrés et qui reflètent effectivement davantage les langues européennes et les valeurs.
Qu'est-ce que vous répondez souvent lorsque QTI a été lancé, on a parlé d'un investissement de l'ordre de 300 millions d'euros. Et puis lorsqu'on regarde la presse américaine, alors on nous parle tout de suite, on part en milliards. Et pourtant on y croit quand même, hein, même nous, dans les médias, mais évidemment vous aussi. Qu'est-ce qui fait un peu, comment expliquer un peu cette décalage d'échelle aujourd'hui entre ces milliards d'un côté, ces millions de l'autre, et pourtant on sent que tout le monde est dans la même course.
Alors, le décalage, il est peut-être, c'est une forme peut-être de perception. Il faut quand même revenir au début d'autres aventures aux États-Unis. Ça n'a pas tout de suite commencé avec des milliards. Ça, c'est la première chose. Donc, commencer avec des centaines de millions d'euros, comme certaines startups ou comme nous, par exemple, mm-hmm. c'est quand même des démarrages exceptionnels. Ça permet d'avoir accès à des infrastructures nécessaires. Par ailleurs, dans notre cas, comme l'enjeu, le but, l'objectif et la mission, c'est de faire de la recherche et pas de faire des produits, oui. Je pense qu'on va pas servir à très très grande échelle des modèles, qui est aussi une des raisons pour lesquelles il faut des milliards dans certains cas. Donc, pour faire de la recherche, je pense qu'on est vraiment très 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 chanceux d'avoir accès à ces dotations.
Alors, aujourd'hui, on entend beaucoup parler autour de cette IA des enjeux de formation. Alors, formation pour tous les collaborateurs de l'entreprise, formation pour davantage de développeurs, de codeurs. En quoi est-ce important aujourd'hui que tout le monde s'y mette, à tous les niveaux, quels qu'ils soient, hein, que ce soit des gens très pointus comme vous, qui poursuivent un peu leur connaissance en IA, à des gens comme nous, utilisateurs, et qui devons apprendre à travailler avec ces outils?
Alors, très bonne question. Effectivement, c'est déjà évidemment important de former les meilleurs ingénieurs et chercheurs pour soutenir l'effort technologique, en particulier en Europe, donc en recherche, en start-up, en entreprise, etc. Mais également, puisque ces outils vont, maintenant ça paraît assez clair, irriguer l'intégralité du monde du travail, donc avec des besoins de nouvelles compétences, il va être évidemment important que déjà les bases de ces outils soient bien comprises, d'abord pour aussi peut-être dissiper certaines peurs, pour que les gens comprennent ce qui est possible et ce qui n'est pas possible de faire avec ces outils, et pour qu'ils en fassent le meilleur usage, de façon à pouvoir être assistés au mieux par ces outils, plutôt que d'être tétanisés par ceux-ci.
Patrick Pérez, je rappelle, vous êtes directeur général du QTI. Qu'est-ce que vous venez chercher ici, là, dans cet événement Rise IT? On le rappelle, hein, on dit 1500 décisionnaires, donc des gens de grandes entreprises, des grands acteurs, et puis tout cet écosystème de ces startups d'IA générative.
Bien, alors première chose, c'est pas le genre d'endroit dont je suis coutumier, puisque moi je suis chercheur depuis plus de 30 ans, donc je suis plutôt habitué aux conférences scientifiques. Mais c'est vrai que les évolutions récentes de l'IA font que la recherche est désormais en prise directe avec les entreprises, avec les startups, avec les développeurs. Donc c'est vraiment important de discuter avec eux. Et dans notre cas, dans la mesure où on veut faire que nos modèles soient partagés avec le plus grand nombre et donc soient le plus utilisables possible et les plus utiles possibles, c'est vraiment crucial d'en parler, puis de comprendre aussi les besoins de l'écosystème.
Donc c'est à la fois que des jeunes startups rejoignent votre écosystème, mais à la fois que des grandes entreprises aussi viennent s'intéresser à ce que vous faites.
Absolument, et puis se faire connaître aussi pour attirer des talents.
Eh bien, merci beaucoup, Patrick Pérez. Je rappelle, vous êtes directeur général de QTI, l'une de nos centres de recherche en devenir, hein, puisque je rappelle, vous êtes 8 chercheurs aujourd'hui, mais l'équipe va bien entendu grossir. On suivra évidemment vos aventures. Et nous, on poursuit nos interventions ici au Rise Summit. Nous sommes à Paris. C'est le rendez-vous de l'IA générative.
Merci beaucoup.
BFM Business, Tech & Co Business, l'invité.
Allez, on termine cette émission avec toujours au Rise Summit, hein, cet événement parisien qui réunit l'écosystème. Beaucoup, beaucoup de monde ici, évidemment, tout l'écosystème IA, et on ne pouvait pas quitter ce salon sans avoir l'une de nos pépites avec nous, Gabriel Hubert. Bonjour Gabriel.
Bonjour Frédéric.
Merci d'être avec nous. Vous êtes CEO cofondateur de Dust AI. Vous existez depuis un an, une douzaine de salaires déjà. Premier mot, start-up dans l'IA générative, qu'est-ce que vous faites exactement? Parce que justement, quand on vous met dans le lot des pépites, les Lighton, les Mistral, les Hugging Face, mais voilà, vous êtes un peu plus sur la partie applicative, hein, c'est ça?
Exactement. Nous, on travaille dans le même écosystème, mais on fabrique la couche applicative, la couche produit qui va permettre à des entreprises de rapidement déployer des solutions d'IA générative. On se concentre en particulier sur les cas de collaboration interne. Donc on permet à des entreprises comme Conto ou Alan ou Lifen ou Payfit d'avoir rapidement accès à des assistants GenAI qui travaillent sur l'ensemble des différents SaaS qu'ils ont en interne pour rédiger des documents, pour trouver l'information plus rapidement et pour tout simplement se débarrasser un peu des tâches répétitives et rébarbatives.
C'est-à-dire qu'à la base, ils ont déjà les LLM
Alors, on fournit l'accès aux LLM également.
Oui.
On a des scénarios dans lesquels ils peuvent utiliser leurs accès aux LLM ou des scénarios dans lesquels c'est nous qui fournissons l'accès. Mais une des raisons pour lesquelles ils choisissent DUS, c'est justement qu'on a déjà travaillé sur la construction de l'accès à tous les LLM dominants.
Voilà,
Anthropique, Mistral, Gemini de Google et OpenAI, bien évidemment.
Parce que c'est ce qu'on comprend un peu à peu dans cet écosystème qui est né très vite, c'est qu'on peut travailler avec un peu tout le monde. On n'est pas obligé, évidemment, on a parlé beaucoup d'OpenAI, on a beaucoup parlé de Gemini de Google, mais ce qu'on cherche toujours à comprendre, c'est que bah, y a tous ces acteurs et finalement, selon les applications, selon ce que l'on veut faire, on prend un couple ou un autre. C'est ça l'idée.
Bien sûr, exactement. Et ce que les entreprises réalisent, c'est que l'intégration à un nouveau modèle, le choix du modèle pour un cas d'usage particulier, c'est pas quelque chose qui est leur spécialité. Et c'est une des raisons pour lesquelles Dust existe. On veut faire ce lien entre des modèles qui sont parfois très performants sur certains sujets, peut-être moins adaptés à d'autres sujets, et les entreprises, sachant qu'une autre spécificité de DUS, c'est d'apporter le contexte de l'entreprise en s'occupant en temps réel et en continu de l'agrégation de tout le contenu qui circule en interne dans les canaux de communication, que ce soit l'email, la messagerie interne, la documentation qu'on essaie de garder à jour. C'est ça qui fait qu'on arrive à travailler plus vite finalement, c'est d'avoir le bon contexte et la GenAI pour pouvoir remplir plus facilement ou compléter plus facilement une tâche.
Et lorsque vous citez là tous vos clients, le but aussi, c'est il y a un côté formation, quoi, accompagnement. C'est-à-dire, c'est pas vous développez évidemment toute cette partie applicative, mais ensuite, ce sont à eux de se l'approprier. C'est ça l'idée.
Oui, mais vous avez raison de le mentionner. L'accompagnement du changement dans les équipes, c'est un des gros défis de cette nouvelle technologie. Le néologisme anglais, c'est le change management, évidemment. Alors, nous, on essaie de fournir une solution transparente, très très simple à prendre en main et qui permet à des personnes, même si elles ne sont pas techniques, de créer des assistants qui sont adaptés à leur cas d'usage spécifique. C'est ce qui nous permet par exemple d'avoir près de 55% des employés d'Alan qui nous utilisent tous les jours parce que sur un assistant ou un autre.
Ce ne sont pas des ingénieurs spécialisés en IA. Voilà.
Non, exactement. Il y a plus d'une centaine d'assistants Dust qui tournent sur des scénarios qui vont de la finance au marketing, aux équipes de vente, aux équipes produits, aux équipes de développement. Et c'est ça justement qui fait l'intérêt d'un produit comme Dust, c'est de pouvoir rapidement créer, déployer et puis ensuite continuellement améliorer des assistants qui sont dopés à l'AI.
Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la richesse, hein, parce que souvent, lorsqu'on parle de formation, de développement dans l'IA, on imagine toujours qu'il faut former plus de techniciens, plus d'ingénieurs, mais en fait, il faut former plus d'utilisateurs comme moi, par exemple, et les cas d'usage viennent peut-être souvent plus de gens qui ne sont pas habitués à travailler avec les technologies. Plutôt que par des ingénieurs. Enfin,
absolument. Nous, c'est ce qu'on voit dans toutes les équipes. On sait que c'est les gens qui ont un esprit plutôt d'itération, d'expérimentation, qu'elles soient techniques ou pas. Ces personnes-là vont sans doute être des pionniers, des champions internes de ces technologies. Nous, ce qu'on trouve excitant, c'est de pouvoir mettre à disposition d'une équipe de support ou d'une équipe de finance une solution et de voir au sein des 10 personnes lesquelles vont se réveiller, lesquelles vont le plus rapidement trouver un assistant pour un cas d'usage précis.
On vous sent plutôt enthousiaste, évidemment, autour de ces technologies. Lorsque vous êtes avec les entreprises, vous sentez une certaine crainte quand même, parce que c'est vrai que c'est une technologie qui s'est démocratisée très vite, qui s'est démocratisée très vite en plus. Et ce qui fait craindre à tout le monde, bon, les deux réflexions qu'on a toujours, c'est mes data, mon job.
Ouais, vous mettez le doigt sur deux sujets qui sont évidemment primordiaux pour les entreprises. Sur le sujet des data, c'est un des aspects du produit DUS sur lequel on s'est concentré le plus, que ce soit la certification de notre produit, donc SOC 2 type 2, qui est une norme vraiment très reconnue aux États-Unis, et la capacité de compartimentaliser, de décider quelle data va être présentée à quel modèle, ce qui est évidemment très important pour des entreprises qui ne veulent pas laisser leurs data parfois traverser des océans ou même être mis à disposition de serveurs qu'ils ne contrôlent pas. Et puis d'autre part, sur les jobs, en fait, je pense que on se rend compte que les gens apprennent et découvrent que ce que nous on a comme motto, c'est qu'on n'est pas là pour remplacer mais plutôt pour augmenter les humains. Il y a peu de scénarios où de A à Z on va mettre un assistant et où ça va marcher. Ce qui est certain, c'est que c'est une technologie importante qui va vraiment fondamentalement impacter, peut-être transformer certains métiers, et que les personnes qui auront accès le plus rapidement possible à cette technologie, pour voir où elle se déploie bien, pour voir où elle n'est pas encore mûre, auront un avantage sur le marché du travail par rapport à celles qui ne regarde pas cette technologie.
Oui, c'est vraiment l'idée. Alors, c'est Microsoft qui l'a mise en avant, mais l'idée du copilote, quoi. On est vraiment dans ce
exactement. Ce domaine-là. Je trouve qu'on a des résultats vraiment les plus satisfaisants et les plus encourageants dans les scénarios d'accompagnement et d'accélération, plutôt que dans des scénarios de remplacement. Et puis, bon, comme on est notre propre entreprise, on a le droit de choisir nos clients et nos cas d'usage. Donc, on est exclusivement concentré sur les entreprises où le leadership, en général, le CEO ou l'équipe de direction, a décidé de mettre à disposition de ses équipes, de manière horizontale, une solution qui va leur permettre d'accélérer leur travail et pas une solution qui est là pour vraiment immédiatement remplacer des équipes.
Gabriel Hubert, on vous pose souvent la question aussi. Vous aviez créé une entreprise, Totem, ce que vous avez revendu à Stripe, vous étiez aux États-Unis. Et puis Dust, vous auriez pu choisir de vous installer aux États-Unis. Et finalement, c'est la France. Pourquoi ce choix ?
C'était un choix pragmatique. Mon associé et moi, on habitait en France au moment de décider de monter l'entreprise. Et un choix pragmatique et réaliste également à cause de la densité de talents et de l'opportunité qu'on avait à Paris de créer une entreprise d'ambition mondiale. Mmh. On a les personnes, on a un niveau d'ambition très différent d'il y a une dizaine d'années. On a l'accompagnement, hein, que ce soit l'accompagnement par le gouvernement, le programme French Tech, le programme France 2030 dont on fait partie. Et puis je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe à Paris en ce moment. Oui. On s'en rend compte. Nous, on a des contacts, nos investisseurs, dont la plupart sont en fait américains, n'ont pas hésité une seconde à investir dans une entreprise française. Entre autres parce qu'ils perçoivent qu'on n'est pas là pour créer le type d'entreprise ou avec le niveau d'ambition qu'il y avait peut-être plus régulièrement il y a 12 ou 15 ans.
Aujourd'hui, on est sur ce salon Race Summit. Qu'est-ce que vous venez chercher ici ? C'est avoir ces contacts avec d'autres entreprises qui puissent utiliser Dust, deviennent clients de Dust ?
Oui, alors j'ai la chance d'intervenir tout à l'heure sur un panel où on va parler avec des dirigeants d'assez grands groupes, justement d'exemples concrets de déploiement de cette technologie au sein de leurs équipes et de la manière dont il a fallu accompagner les différentes fonctions. Donc ça, c'est tout à l'heure. Et puis en attendant, j'ai la chance de pouvoir retrouver des contacts professionnels, des partenariats, des clients potentiels, certains qui sont venus de l'étranger pour ce sommet aujourd'hui. Donc voilà, le temps n'est pas perdu et on peut en quelques heures couvrir ce qu'il aurait fallu plusieurs semaines à faire.
Eh bien, merci Gabriel Hubert, puis bravo, parce que c'est une belle aventure que celle de Dust menée depuis un an, Dust AI dans l'IA générative. On se quitte ici sans Tech & Co Business, on se retrouvera la semaine prochaine, mais voilà, vous sentez un peu cet enthousiasme, cette dynamique autour de l'IA générative, c'est ce qu'on a voulu vous faire partager ici depuis l'événement Race Summit. Excellente semaine sur BFM Business.
Tech & Co Business sur BFM Business.